بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, le samedi, le 8 du mois d'Al-Qa'da de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 25 avril 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour apprendre ensemble notre religion, et nous commençons par la meilleure des paroles, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme ça a été convenu, nous allons lire ensemble aujourd'hui les deux derniers versets de Sourate Al-Baqarah. Et nous allons voir les mérites, ou quelques mérites plutôt, de ces deux derniers versets de Sourate Al-Baqarah, et de l'importance de les mémoriser, même pour ceux qui ne mémorisent que très peu de le Coran, de mémoriser Al-Fatiha, qui est un pilier dans la Salat, de mémoriser Ayat Al-Kursi, qui est le meilleur verset de Al-Qur'an, et également ces deux derniers versets de Sourate Al-Baqarah avec les trois dernières sourates du Qur'an, ce qu'on appelle les Mu'awwidhat. Qul huwallahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Donc même quelqu'un qui vient d'entrer en islam il y a quelques heures ou là il y a quelques jours, il est censé commencer tout d'abord par le Fatiha, car c'est un pilier dans la salat et c'est une obligation de la mémoriser. Et ensuite, il mémorise ses versets et ses courtes sourates dont il aura besoin tous les jours dans sa vie. Et après, bi'idnillah, il continue à mémoriser, chacun selon sa capacité. Donc, celui qui veut lire en premier, ouvre le micro. Je ne vois personne qui a ouvert son micro.
Salam alaikum.
Alaikum salam. Tfaddal ya akhi. Ma smok?
Ismaïl.
Hayak Allah ya akhi Ismaïl.
A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Aman ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل لنا وعلينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
كما حملته على الذين من قبلنا
كما حملته
لا ليس حملته يا قد شد حملته
حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل لنا ما لا
ربنا ولا تحملنا
ربنا ولا تحملنا وما لا تقنا لنا به واعف عنا
أعد ربنا ولا إن وصلت ولا تحملنا لا في أين وصلت؟ ولا تحمل علينا إصرا. Reprends de là. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.
ولا تحمل علينا إصرا كما حملته.
لا سبا حملته. حملته.
حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا,
لا ولا تحملنا تحملنا
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
واعف واعف
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
فانصرنا على القوم الكافرين
فانصرنا على قوم الكافرين.
ما شاء الله الله مبارك بارك الله فيك يا إسماعيل. أحسنت أحسنت
الله.
طيب ننتقل للذي بعده. في أحد فتح؟ أحمد
أستاذ.
أي نعم تفضل يا أدمة.
Est-ce qu'on a le droit de lire sur le...
Oui, non, non.
Sur le...
Non. L'idéal, c'est de mémoriser. Mais il n'y a pas de mal à lire dans le mushaf. Au moins, on s'assure... Lana, vous savez, Ikhwa, c'est très important avant de mémoriser une surah, ou là, de mémoriser un verset, ou là, plusieurs versets, c'est très important de le lire devant quelqu'un qui peut vous corriger. Car si vous mémorisez avec des erreurs, par la suite, ça va être difficile de les corriger. Vous avez remarqué avec Ismaïl, mashallah, il a bien récité, sauf dans deux mots où il les a lus d'une certaine manière, même en l'ayant corrigé, il est revenu à ce qu'il a mémorisé. C'est pour ça que c'est très important de lire devant quelqu'un avant de mémoriser. Ou là, si vous n'avez pas quelqu'un à qui vous pouvez lire, vous écoutez un bon récitateur plusieurs fois. Par exemple, comme le Hussari, qui prononce bien, ou Cheikh Ali al-Hudayfi. Et après, vous mémorisez. Fadalia.
A'udhu billahi min shaitan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Amana rasul bima
ulayla. Amana, a'id. Lakin on va essayer d'aller doucement. طيب آمن الرسول تفضل
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله وقولوا سمعنا وطعنا
وقالوا سمعنا وأطعنا
غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تحزنا إن تحزنا
ربنا
إن
لا تؤاخذنا لا تؤاخذنا
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أعطانا
إن نسينا أو أخطأنا أو أخطأنا
أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا مولانا فانصرنا على قوم الكافرين.
أحسنت، بارك الله فيك.
تبارك.
طيب الذي بعده أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تبارك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا ما لا طاقة لنا به
لا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
أحسنت، بارك الله فيك. طيب نعم، أنت أحمد أو داود؟
أحمد.
يلا يتفضل أخونا داود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد
لا نفرق لا نفرق ليس لا نفرق الراء مرقق لأنه مكسور لا نفرق بين أحد من رسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحملنا ما طاقة لنا
ما لا طاقة لنا به
ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
أحسنت يا داود، ما شاء الله، أوتيت مزمارا من مزامير داود وأحسنت قراءة، فبارك الله فيك ونفع الله بك. فهمت ما قلت لك؟
لا.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم quand il a entendu أبو موسى الأشعري réciter le Coran il lui a dit يعني أوتيت مزمارا من مزامير داود عليه السلام، لأن داود عليه السلام le prophète messager avait une très très belle voix et il lui a dit tu as eu une part de la beauté de sa voix et toi pareil tu as le même prénom et mashallah une belle voix une belle récitation continue qu'Allah te facilite. طيب on va prendre le suivant Abdullah Abu Zaid.
Salam.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حمل على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
أحسنت، بارك الله فيك، قراءة طيبة. فقط الراء لا نفري، نفس الملاحظة، لا نفري، الراء هنا مرققة، لكن احنا في العامية نقول لا نفري، لا نفرق، لكن هي ليست لا نفرق، لا نفري، مثل الراء في فرعون، يعني تسمع بعض الناس يقولون فرعون، فرعون، لكن صحيح فر فر فرعون فرعون. أحسنت يا عبد الله، أحسنت يا عبد الله. طيب ننتقل للذي بعده، لا أرى أحدا فاتحا. أيوة أيوة نعم تفضل، ما اسمك؟ ها؟
موسى.
موسى تفضل يا موسى.
آمن
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا نكلف الله نفسا
إلا وسعها
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
ما شاء الله، بارك الله فيك يا موسى، جزاك الله خيرا. طيب الذي بعده.
بارك الله.
في أحد؟ يا مشايخ. كل راجل.
نفهم.
يلا يتفضل. ما اسمه؟ يا تفضل.
الله الرحمن الرحيم. آمن بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
من رسله. On dit pas من رسله. Non ici elle va rentrer dans ra. On dit من رسله. من رسله.
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا
إصرا
أعد ربنا ولا تحمل علينا
إصرا كما حملت وعملت من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واخفق لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
ما شاء الله، بارك الله فيك يا عمران، جزاك الله خيرا، قراءة طيبة. طيب لعلنا نأخذ آخر واحد. في آخر فولونتير لو ديرني.
أنا.
ما اسمك؟
داود.
تفضل يا داود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
أحسنت يا داود، ما شاء الله، نفس الملاحظة التي ذكرتها لداود الذي سبقك. بارك الله فيك. طيب من الذي قال يريد يقرأ؟ Qui voulait lire là, qui a parlé? Yallah, s'il n'y a personne, on va passer à une explication résumée de ces deux versets, les deux derniers versets de Sourate Al-Baqarah, le verset 285 et le verset 286 de cette Sourate. Sourate Al-Baqarah, c'est une Sourate bénie à laquelle les sorciers Sahara ne peuvent pas résister. Et dans cette sourate, nous avons Ayat al-Kursi, le meilleur verset du Coran. Que signifie al-Kursi?
Le repos de pied.
Mashallah. Est-ce qu'il y a... Naam? Est-ce que le coursier, c'est la même chose que l'arche?
Non.
Là.
Là.
C'est faux, celui qui dit que le coursier, c'est l'arche, c'est la même chose, c'est faux. Car dans l'ahadith, il y a une distinction entre les deux. Taïb. C'est pour ça, Annie, c'est le verset du coursier, et non pas le verset du trône. Car le trône, c'est l'arche. Et Allah, dans ce verset, Allah la ilaha illahu, il n'a pas parlé de l'arche, il a parlé de l'kursi. Lakin, c'est une erreur très répandue. Ils traduisent l'kursi par le trône, car il y a certains qui pensent que c'est la même chose, et ça, c'est une erreur. Taïb. Et dans cette sourate également, nous avons ces deux derniers versets. Ces deux lumières qui ont été révélées par Allah subhanahu wa ta'ala sur son noble prophète, et il n'a jamais révélé des versets semblables à un prophète avant notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car dans le hadith, Jibril alayhi salam a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Abshir binurayni utitahuma lam yu'tahuma nabiyun qablak fatihatul kitabi wa khawatimu suratil baqarah. Donc, dans ce hadith, Jibril alayhi salam a dit à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a annoncé la bonne nouvelle de recevoir deux lumières avec lesquelles Allah l'a spécifié et qui n'ont jamais été révélées à un prophète avant lui. Le verset Sourate al-Fatiha et les deux derniers versets de Sourate al-Baqarah. Et il lui a dit, avec chaque lettre que tu lis dans cette sourate, tu seras exaucé. Yani toutes les invocations dans cette sourate sont exaucées. Et dans les deux derniers versets de Ayat al-Kursi, de sourate al-Baqara. Yani à la fin, comme on va voir, toutes ces invocations ont été exaucées. Il a été rapporté dans le hadith authentique que quand le croyant invoque Allah avec les invocations dans ces deux derniers versets, Allah dit « J'ai fait, j'ai exaucé, j'ai accepté. »« Qad fa'alt, qad fa'alt. » Donc, c'est exaucé. Et d'une manière générale, tout ce que comporte cette sourate et ces deux versets sont exaucés. Toutes les invocations sont exaucées pour l'ensemble de la communauté, comme nous allons le voir à travers l'explication de ces deux derniers versets. Et à leur sujet, il y a énormément de hadiths qui ont été rapportés, dans lesquels sont indiqués leurs mérites. Comme le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, dans lequel le prophète a dit « Celui qui lit les deux derniers versets de Sourate al-Baqarah dans une nuit, ils lui suffiront. » C'est-à-dire, ça sera suffisant pour lui comme protection contre le mal. D'où l'importance de lire ces deux versets avant de dormir. Et dans la nuit, yani après le coucher du soleil. La nuit, c'est après le coucher du soleil. Et le soir, c'est quand?
Après le garder.
Non. Ça, c'est la nuit. Le soir, c'est quand?
Après
l'asr. Après l'asr, jusqu'au coucher du soleil. Ça s'appelle le soir.
Après
l'Aïcha? Après l'Aïcha, c'est encore la nuit. La nuit, elle commence avec le coucher du soleil. C'est le début de la nuit. Et avant le coucher du soleil, c'est le soir. Le soir, ensuite la nuit. Et la nuit va continuer jusqu'au lever de l'aube, yani le début de la matinée. Le début de la matinée. Taïb. C'est pour ça, yani les invocations du soir, on les dit entre l'Asr et le Maghrib. Et le plus tôt tu les fais, le mieux ça sera pour toi. Car yani t'active la protection plus tôt. Contrairement à quelqu'un qui attend quelques temps avant le coucher du soleil pour les faire. C'est mieux de les faire dès que tu as fait Salat al-Asr. Il y a des savants qui disent que tu peux les faire même après Salat al-Dhuhr. Et ça, c'est un avis qui est fort aussi. Tu peux les faire même après Salat al-Dhuhr, les invocations du soir. Amma, après le coucher du soleil, c'est les invocations de la nuit que tu fais. Et non pas les invocations du soir. Taïb, quelqu'un parmi vous a oublié de les faire avant le coucher du soleil. Est-ce qu'il peut les faire après le coucher du soleil? La réponse?
Oui.
Oui, il peut les faire.
Lakin,
c'est pas, elles n'étaient pas faites, ces invocations n'ont pas été faites dans leur temps. Comme quelqu'un qui rattrape sa salat, parce qu'il a oublié de la faire. Donc, les invocations du soir, c'est après Dhuhr, après l'Asr. Et les invocations du matin, à partir de quel moment on peut les faire?
Après le Fajr.
Après le Fajr. Dès que c'est l'Adhan, tu peux les faire. Lakin, tu les fais après Salat al-Fajr ou l'Adi, c'est bien aussi. Lakin, dès qu'il y a l'Adhan, tu peux commencer à les faire. C'est très important, ces invocations. Il ne faut jamais les oublier, il ne faut jamais les délaisser. C'est une forte protection qu'Allah t'accorde en répétant quelques invocations. Celui qui est pressé ou là, qui n'a pas le temps pour les dire toutes, au minimum, il dit quoi? Il dit Ayat al-Kursi, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Au minimum. Ça ne te prend même pas 2 minutes. Comment tu délaisses ça et tu restes exposé au danger de shayatin? Ils peuvent te faire du mal. Que ce soit les shayatin parmi les djinns ou les shayatin parmi les humains. Donc n'oubliez jamais les invocations du matin et les invocations du soir. Et aussi les invocations de la nuit ou quand tu prends ta couche pour dormir. Quand tu vas dans ton lit, il y a des invocations qu'on dit à ce moment-là. Si un jour tu es fatigué, ou là une nuit, en parlant de la nuit, si une nuit tu es fatigué Oula, comme ils disent, t'as la flemme, oula. Annie, tu veux pas tout dire. Le mieux, c'est bien évidemment de tout dire. Tu prends la citadelle et tu dis tout ce qu'il y a dedans, dans les invocations, avant de dormir. Là, qu'il si t'as la flemme, oula, dit, t'es fatigué, alors, au minimum, tu lis Ayat al-Kursi et Aman al-Rasul bima unzila ilayhi min Rabbihi. Au minimum. D'accord? Et donc, ces deux sourates, celui qui les lit dans une nuit, elles seront une protection suffisante pour lui. Ça, c'est rapporté dans un hadith. Et le Nabi alayhi salam, quand il, lors de la nuit, du voyage nocturne et de l'ascension, Allah lui a donné trois choses par lesquelles il l'a spécifié. Ça veut dire, ça, c'est spécifique au prophète alayhi salam. Jamais aucun prophète n'a eu ces trois points excepté notre prophète alayhi salam. La première, c'est les cinq salawats qui étaient prescrites au début 50. Et ensuite, ça a été allégé à 5. Et la récompense est restée la récompense de 50. Allahu Akbar. Regardez les bienfaits d'Allah sur cette communauté. On fait 5 salawats comme si on a fait 50. Et après chaque salat, elle est multipliée par 10 au minimum. Ça veut dire comme si tu as fait 500 au minimum. Car chaque hasana est récompensée par 10 auprès d'Allah. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Jusqu'à des multiplications encore plus grandes. Lakin au minimum, c'est ça. Donc toi, quand tu fais 5 salawats auprès d'Allah, comme si tu as fait 50. Et après, sur chaque salat, il va te récompenser au minimum 10 fois. Ça fait comme si tu as fait 500 salats. Alors que tu as fait 5 salawats seulement. Les salats, mes frères, c'est une ni'ma immense. Nous devons remercier Allah qui nous a prescrit la salat. Imaginez si dans notre religion, il n'y avait pas ces 5 salawats. La première, c'est le fajr, avec laquelle tu démarres ta journée. La deuxième, c'est dhuhr, après avoir été au travail, après avoir été à l'école, après avoir été au marché, après avoir fait les travaux de ménage ou les choses à la maison, pour tous. Après tout ça, Allah nous a prescrit une deuxième salat, un rappel, dhuhr. Ensuite, tu te reposes, ou là tu te reposes avant dhuhr, et ensuite tu fais salat l'asr. Et au coucher du soleil, le début de la nuit, tu fais salat al-maghrib. Et vers la fin, avant de se coucher et de remettre l'âme à son créateur, tu fais encore une salat. Regarde, Allah Azza wa Jalla, comme il a réparti pour nous ces 5 salawats sur la journée où tu es toujours rappelé à ton créateur. Car l'être humain est faible, il oublie. Il tombe facilement dans l'insouciance, dans la distraction. Allah, par miséricorde de sa part, il lui a prescrit obligatoirement de se rappeler Allah au minimum à ces moments-là. Après, les croyants à qui Allah a accordé plus de bienfaits, ils ne vont pas se contenter de se rappeler d'Allah pendant ces 5 salawats seulement. Ils vont avoir des moments dans la journée où ils lisent le Coran, des moments dans la journée où ils apprennent Tawhid, des moments dans la journée où ils apprennent la langue arabe, et ainsi de suite. Le rappel d'Allah sera présent à plusieurs moments dans la journée. Et après, il y a des serviteurs qui sont encore à un niveau plus élevé, où ils sont dans le rappel d'Allah en permanence. Même quand ils travaillent, ils se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même quand ils font une tâche mondaine, un travail mondain, il est en entreprise, ou là, il travaille à l'usine, ou là, il se rappelle toujours Allah. Ça, c'est encore un niveau plus élevé. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, lors de la nuit de l'ascension, a donné au prophète alayhi salam trois choses spécifiques à lui. Il lui a donné les 5 salawats obligatoires, il lui a donné les 2 derniers versets de sourate al-Baqarah, et il lui a accordé le pardon pour les membres de sa communauté qui rencontrent Allah sans rien lui associer. Qui rencontre Allah sans rien lui associer. Alhamdulillah, pour tous ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Taïb, par rapport à ces deux versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal-mu'minun » dans le sens approximatif, le messager a cru en ce qui lui a été révélé de la part de son Seigneur, de même que les croyants. Donc le messager a cru et les croyants ont cru. Tous ont cru et après Allah a cité les piliers de la foi. Tous ont cru en Allah. C'est le premier pilier de la foi et le pilier qui englobe le reste des piliers de la foi. Tous rentrent dans ce pilier. Car la foi en Allah englobe le reste des piliers de la foi. Donc, tous ont cru en Allah, en ses anges, ses écritures, ses messagers. Donc, il a cité combien de piliers parmi les piliers de la foi ? Il a cité la foi en Allah, aux anges, aux écritures, aux messagers. Quatre piliers. Et les piliers de la foi sont au nombre de six. La foi au jour dernier et la foi au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tout est prédestiné par Allah, tout ce qui arrive. Donc, les croyants, comme le messager, croient tous en tous ces piliers de la foi. Ils croient tous en ces piliers de la foi. Le premier pilier de la foi en Allah. Tu dois croire qu'Allah existe. Et parmi les preuves de son existence, toi-même, tu es une preuve de l'existence d'Allah. Qui t'a créé ? Ainsi que toutes les créatures que tu vois autour de toi. C'est l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui le créateur unique et absolu. Et personne n'a jamais prétendu avoir créé quoi que ce soit, excepté Allah. Les êtres humains ne peuvent pas créer un verre comme celui-là, dans lequel il n'y a pas de vie. Les êtres humains aujourd'hui ne peuvent pas créer un bout de bois dans lequel il n'y a pas de vie. Vous savez ce que ça veut dire créer ? Qui peut m'expliquer ce que ça veut dire créer ?
Fabriquer ?
Fabriquer, ils peuvent fabriquer, ils l'ont fabriqué.
Construire.
Créer, ça veut dire de la création de laquelle nous parlons, car la création, ça peut être utilisé dans le sens que vous avez dit. Fabriquer.
Créer, ça veut dire créer
à
partir du néant.
Ya salam. Mashallah,
fabriquer
mashallah.
Des choses fabriquer.
Fabriquer, produire, concevoir, ça aussi c'est parmi les sens de la création. Là, la création qu'on veut ici et qui est spécifique à Allah et que personne ne peut faire jusqu'à la fin des temps, malgré l'avancée technologique, malgré tout ce que vous voulez, personne ne pourra faire cette création. C'est celle que qui a donné la bonne réponse. Créé à partir du néant. Ahmad, barakallahu fik Ahmad. C'est la création à partir du néant. Ça veut dire il y a du vide et tu me crées ce verre. Ça, personne ne peut le faire. Et personne ne pourra jamais le faire. L'homme, il a besoin des matières premières pour créer le verre. Il ne peut pas le créer à partir de rien. Ça n'existe pas. Personne ne peut le faire. Il n'y a que Allah qui est capable de le faire. C'est pour ça la création qu'Allah a permis à Isa, Jésus, et à d'autres hommes, c'est pas cette création à partir du néant, à partir de quelque chose qui est existante. À Ibrahim alayhi salam également, c'est une création à partir d'une chose existante. Amma la création à partir du néant, de rien, ça il n'y a que Allah qui peut le faire. Donc là on parle de la création d'une chose dans laquelle il n'y a pas de vie. Alors que dire de créer une cellule ou une bactérie ou un virus, chose qu'on ne voit pas avec l'œil. Avec l'œil nu, on ne peut pas voir ces créatures, tellement elles sont petites. On ne les voit qu'avec des microscopes. Et pourtant, l'être humain ne peut pas créer quelque chose dans laquelle il y a une vie. Il ne peut même pas créer une chose dans laquelle il n'y a pas de vie. Alors ne parlons même pas d'une chose dans laquelle il y a une vie. Ça, c'est inimaginable et impossible. Il n'y a que Allah qui sait le faire. Donc, croire en Allah, c'est d'abord croire en son existence. Croire ensuite en sa seigneurie, qu'il est l'unique créateur, l'unique pourvoyeur, l'unique gestionnaire et organisateur et administrateur de toute sa création, subhanahu wa ta'ala. Donc croire en sa seigneurie. Croire ensuite en ses noms et ses attributs. Il a les plus beaux noms, les noms magnifiques et les attributs les plus sublimes Allah subhanahu wa ta'ala, dans chacun de ses attributs, il a atteint le summum de la perfection. Quand on parle du nom d'Allah al-Karim, le généreux par excellence, l'attribut qu'il indique, c'est l'attribut de... Allez.
Générosité.
De la générosité. Barakallahu fik. C'est l'attribut de la générosité. Allah, il est le généreux par excellence. Il a atteint dans sa générosité le summum. La créature peut être généreuse également. Lakin, sa générosité, elle est proportionnelle à sa faiblesse, son impuissance. C'est une créature. Ce n'est pas la générosité du Créateur. Toi, quand tu es généreux avec ce que Allah t'a donné. Et toi, quand tu es généreux, si quelqu'un se présente tous les jours, trois fois, et trois fois par jour, il vient chez toi, il toque à ta porte, il demande à manger, tu vas lui donner le premier jour, trois repas, deuxième jour, et après c'est chacun selon sa générosité. Il y en a qui vont lui donner une fois, il revient le lendemain, il lui dit « mais ça va pas, va chercher quelqu'un d'autre ». Il y en a qui vont lui donner pendant un mois, pendant un an. Lakin, en général, les êtres humains, ils finissent par se lasser. Allah subhanahu wa ta'ala, il se lasse jamais de te donner. Au contraire, plus tu lui demandes, plus il t'aime. Lakin, regarde, pourquoi on ne demande pas à Allah? Est-ce que vous ne remarquez pas ça chez vous? Comme moi, je le remarque chez moi. Allah musta'an. Regardez la faiblesse qu'on a. Si on te dit, il y a un roi très riche, très fort, très puissant et très bon, et qui donne aux gens tout ce qu'ils lui demandent. C'est le roi de tel pays auquel tu peux accéder. Et alors, en général, les rois, tu ne peux pas accéder chez eux sans intermédiaire. Lakin Allah, il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Tu lèves tes mains, tu dis à Allah, donne-moi, il te donne. Et imagine s'il y avait un roi comme ça. Et tu vas chez lui. Regarde combien tu vas lui demander. Tu vas lui dire, donne-moi ça, j'ai besoin de ça, donne-moi. Lakin, pourquoi on ne fait pas de même avec Allah, voire plus, alors qu'Allah aime ceux qui lui demandent et les rapproche de lui. Dua, c'est l'adoration la plus importante en islam. Donc, si tu veux mesurer ton degré de foi, regarde combien tu demandes à Allah. Pour ça, sahaba, radiallahu anhum, ils demandaient tout à Allah. Nous, il y a beaucoup de choses qu'on demande, même pas à Allah, parce qu'on les a à la maison. On ne demande pas ni la nourriture, tu demandes à ton père. Là, c'est Allah qui te donne, ce n'est pas ton père. Ton père, c'est une cause. Si Allah ne lui donne pas, il ne ramènera pas à manger. Donc, croire en son existence, sa seigneurie, en ses noms et ses attributs, et croire en son unicité dans l'adoration. Croire en son unicité dans la divinité. Allah, il est le seul qui mérite l'adoration. L'adoration ne doit pas être vouée à un prophète ou un ange ou un homme pieux ou un homme de science. On adore uniquement Allah. Et c'est à ça que le prophète nous a appelé. Il ne nous a pas dit « adorez-moi, vénérez-moi, divinisez-moi ». La divinité, c'est le caractère spécifique d'Allah subhanahu wa ta'ala. La seule vraie divinité, c'est Allah. Naam. Beaucoup de choses sont adorées en dehors d'Allah sur terre. Il y en a qui adorent des prophètes. Il y en a qui adorent des vertueux. Il y en a qui adorent des déviants et des pervers. Il y en a qui adorent des arbres. Il y en a qui adorent des astres. Il y en a qui adorent des pierres. Il y en a qui adorent des vaches et des rats. Il y en a qui adorent l'argent. Lakin, la seule vraie divinité, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est croire en Allah. Croire l'iman billahi wa malaikati. Croire en ses anges. Les anges, ce sont des créatures qu'Allah a créées à partir de lumière. Et chacun a une fonction spécifique qu'Allah lui a accordée. Ils sont tellement nombreux que dans les sept cieux, il n'y a pas un endroit dans lequel il n'y a pas d'ange. Et les meilleurs de ces anges, c'est l'ange Jibril alayhi salam, celui qui a transmis la révélation à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi salam, ainsi qu'à tous les prophètes et messagers, y compris Jésus. Car les chrétiens ne croient pas que Jésus a reçu la révélation. car il le divinise. Amma Jibril alayhi salam, c'est l'ange qui est chargé de transmettre la parole d'Allah, transmettre la révélation à tous les prophètes et messagers. Croire en ces anges et croire al-iman billahi wa malaikati wa kutubi, croire en ces livres. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des prophètes et des messagers, et le messager a un degré supérieur au prophète, car chaque messager est un prophète à la fois. Lakin, pas tout prophète est un messager. Donc le messager, c'est un degré supérieur au degré du prophète. Et le messager, il est envoyé à des gens qui ne sont pas sur la même religion que lui. Lui, il est sur l'islam. Donc, il est envoyé vers des gens qui sont mécréants. Le prophète est envoyé à des croyants pour leur rappeler des choses qu'ils ont délaissées, comme le rôle des hommes de science dans notre communauté. Car dans notre communauté, il n'y aura plus de prophète ni de messager après notre messager et prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lakin, c'est les hommes de science qui remplissent ce rôle-là du rappel. Ils nous enseignent la religion, ils nous rappellent les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses commandements. Taïb, l'iman billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi, ces messagers. Allah a envoyé énormément de prophètes et de messagers. Les prophètes, leur nombre est de 124 000. Le premier d'entre eux, c'est Adam. Et le dernier, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a envoyé des messagers dont le nombre est de 313 ou la 314 messagers. Le premier messager, c'est qui le premier messager?
Adam.
Aïwa? Le premier messager.
Adam.
Nuh, alayhi salam. C'est pas Adam. Adam, c'est un prophète. Le premier messager, c'est Nuh. Parce que entre... Pourquoi? Qui peut m'expliquer pourquoi Adam, c'est pas un prophète? C'est pas un messager, c'est un prophète. Selon ce que je viens de vous dire. Je vous ai dit que le prophète, il est envoyé à des croyants. Et le messager est envoyé à des mécréants. Alors, expliquez-moi pourquoi ce n'est pas Adam le premier prophète, messager, mais c'est plutôt Nuh, alayhi salam. Allez.
Parce qu'il n'a pas de message à transmettre.
Adam, il a été envoyé à des croyants.
Aïwa, mashallah. Parce qu'il n'y a pas eu de mécréants jusqu'à l'époque de Nuh. Entre Adam et Nuh, tous étaient des croyants. Il y avait des péchés, mais il n'y avait pas d'associationnisme ni de mécréance. D'accord? Le premier messager, c'est Nuh, alayhi salam. Et le dernier messager, c'est qui?
Muhammad,
sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'iman billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi est de croire au jour dernier. Le jour dernier, c'est tout ce qui suit la mort. Et de croire au décret d'Allah. Allah a tout décrété. Tout ce que tu vois autour de toi, tout ce qui se passe dans ce monde, c'est Allah qui l'a décrété. Il l'a toujours su. Et 50 000 ans avant la création des cieux et des terres, il a ordonné à ce que ce soit mis par écrit. Quand il a créé le qalam, la plume, il lui a dit d'écrire tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Il lui a dit, écris. Il a dit, oh Allah, qu'est-ce que je vais écrire? Il lui a dit, écris tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Donc Allah lui a ordonné d'écrire. Et ensuite, Allah, il décide que la chose arrive, et puis ça arrive. Ça, c'est le décret. Donc tout ce que tu vois, c'est Allah qui l'a décrété. Personne ne sort du décret d'Allah. Taïb. Ça, c'est la foi aux six piliers de... croire aux six piliers de la foi. C'est pour ça que ces deux versets avaient cette importance, étaient ces deux lumières spécifiques à cette communauté, avaient cette grande importance dans notre religion. Et c'est important de les répéter, car elles comportent, ces deux versets comportent tous ces sens qu'on vient de voir. Donc les croyants ont cru, affirmant, nous ne faisons aucune différence entre eux, ces messagers. Donc, les croyants affirment ne pas faire de différence ni de distinction entre les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala et les prophètes d'Allah. ils sont tous des vrais prophètes et des vrais messagers. Comme Moussa alayhi salam, comme Isa alayhi salam, comme Daoud, comme Suleyman, comme Ayoub, comme Idris, comme Adam, ou Ibrahim, ou Nuh, ou Muhammad sallallahu alayhi salam. Tous, ce sont les prophètes et les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tous les croyants ont cru en tous ces fondements de la foi, ont cru en tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à ceux qui ont falsifié leur religion parmi les juifs et les chrétiens. Ils ne croient pas en tous les prophètes d'Allah. Les juifs ne croient pas en la prophétie de Jésus, ni en la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les chrétiens ne croient pas en la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut savoir que la règle, notez bien cette règle, celui qui mécroit en un seul prophète, c'est comme celui qui mécroit en... Qui peut compléter ?
Tous les prophètes.
Tous les prophètes. Tous les prophètes. Celui qui mécroit en un seul prophète, c'est comme celui qui mécroit en tous les prophètes. Car si tu renies, si tu démens un prophète d'Allah, c'est comme si tu as démenti l'ensemble de ses prophètes. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla a accordé toutes ses faveurs à cette communauté qui a cru en tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui a cru en tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement aux autres qui ont mécru en certains et qui ont cru en certains. Lakin, cette croyance en certains prophètes ne leur sera d'aucun profit. Car ces prophètes auxquels ils ont cru, s'ils avaient cru en eux, en toute réalité, en toute vérité, ils auraient cru au suivant. Car eux leur ont dit de croire et de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Isa alayhi salam l'a dit à sa communauté. Moussa alayhi salam l'a dit à sa communauté également. Et ensuite, les croyants, qu'est-ce qu'ils ont dit ensuite ? وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. Ils ont dit encore, nous avons entendu tes paroles et nous obéissons à tes ordres. Allahu Akbar. Ça, c'est l'attestation des croyants. Les croyants, écoutez bien ce qu'ils ont dit. وَقَالُوا سَمِعْنَا. Nous avons bien entendu les ordres et les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons bien entendu tes paroles. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. Et nous avons obéi à tes ordres. Ce n'est pas nous avons pris connaissance de la religion d'Allah et nous l'avons laissée de côté, comme ont fait les autres avant nous. Mais nous, alhamdoulilah, Allah nous a permis de connaître la religion d'Allah et de la suivre et de la mettre en pratique. Et ensuite, donc, ensuite, qu'est-ce qu'ils ont dit ? وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Nous implorons, ô Seigneur, nous implorons ton pardon. C'est à toi que nous retournerons. Donc, regardez leur foi au jour dernier. Ils ont la foi au jour dernier. Ils savent qu'ils vont retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils seront jugés et qu'ils vont devoir rendre des comptes. C'est pour ça ils sont toute écoute, toute obéissance aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces invocations sont sans aucun doute exaucées pour tous les croyants. Sont exaucées pour tous les croyants, comme Allah lui-même a dit dans l'authentique de l'imam muslim, il a dit « Qad fa'alt » J'ai accepté, j'ai exaucé ces invocations. « Ghufranaka Rabbana » Nous demanderons à Allah de nous pardonner et de nous faire rentrer dans l'ensemble de ses croyants à qui il a accordé son pardon, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah Azza wa dit, « La yukallifu Allah nafsan illa wus'aha » Regardez les choses par lesquelles Allah a spécifié cette communauté. Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. Allah ne charge jamais une âme au-dessus de sa capacité. Et ça, c'est la facilité dans cette religion. Contrairement à d'autres législations, où tellement ils demandaient qu'Allah leur a imposé des choses dures à cause de leur entêtement et de leur désobéissance. Mais les croyants qui ont tout accepté et qui ont montré leur soumission à leur Créateur, Allah leur a accordé la facilité dans la religion. C'est pour ça la règle de base dans la religion, c'est la facilité. et non pas la difficulté. Yani, si tu vis dans une société de l'islam, tu vas trouver que l'islam c'est facile. Pourquoi certains se plaignent de la difficulté de l'islam en Europe? Qui peut me répondre?
Parce que les gens en Europe n'aiment pas l'islam.
Parce que les gens n'aiment pas l'islam et parce que tout est contraire à l'islam. Partout où tu vas, il y a des choses qui sont pas en accord avec l'islam. Donc, tu es dans une gêne, tu es dans une difficulté à cause de ça. Amma, dans un pays d'islam, alhamdoulilah, tu vis l'islam, c'est naturel, comme tu respires l'air. L'islam, c'est une facilité. Pourquoi ça peut être difficile dans certaines sociétés? Parce que ces sociétés ne suivent plus la religion d'Allah. Et ces sociétés sont remplies d'interdits partout où tu vas. Les statues, les idoles, la sorcellerie, le mal, les péchés, les femmes mal habillées, l'alcool, les bars, les discothèques, et ainsi de suite. Lakin, si tu vas dans un pays d'islam qui applique la religion, tu vas trouver que l'islam, c'est aussi facile que respirer l'air. Alhamdulillah. L'islam, c'est la religion de la nature humaine saine. L'islam, c'est la religion de la facilité. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Chaque âme sera récompensée pour ses bonnes œuvres. Tu vas trouver tout le bien que tu as fait, tu vas le trouver dans ton livre. Rien ne sera oublié. Et également, comme elle sera récompensée pour ses bonnes œuvres, elle sera châtiée pour ses péchés. C'est-à-dire, tu ne vas jamais trouver un péché que tu n'as pas commis. Tu trouveras uniquement ce que tu as fait. Ce que tes mains ont semé. C'est ce que tu vas récolter, tout simplement. Tu ne trouveras pas autre chose. Et ça, ça fait partie de l'équité et la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ensuite vient ces invocations où les croyants disent: Seigneur, ne nous tiens pas à rigueur de nos oublis ou de nos erreurs. Yani, Seigneur, pardonne-nous les oublis et les erreurs, les choses qu'on fait par oubli et les choses qu'on fait par erreur, pas volontairement. Allah a dit: j'ai exaucé. Ça veut dire, dans cette communauté, tout ce que tu fais par oubli. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas fait salat, il l'a oublié. Quand il se rappelle, il fait la salat. Il est pardonné. Il n'a pas de péché pour avoir retardé la salat. Et quelqu'un, par erreur, il fait une chose qui n'est pas bien, lakin il l'a fait par erreur. Ce n'était pas fait exprès de sa part. Allah lui pardonne. Lakin, rappelez-vous un point. Si cette erreur ou cet oubli cause du tort à une créature, tu dois réparer le mal. Lakin, tu n'auras pas de péché en Allah. Lakin, tu dois réparer le mal. Par oubli, t'as cassé le verre de ton enseignant. Tu dois payer le verre. Sauf si l'enseignant te pardonne. Lakin, tu dois réparer le mal. Quand c'est vis-à-vis de la créature. D'accord? Amma, le péché, tu n'auras pas de péché. Tu auras des péchés seulement pour les choses que tu as fait, le mal que tu as fait volontairement. Tout en te rappelant que c'est un mal. D'accord? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Seigneur, ne nous accable pas d'un fardeau semblable à celui imposé aux nations qui nous ont précédés. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Allah leur a imposé des fardeaux et des choses lourdes et pénibles à cause de leur entêtement et de leur désobéissance. Mais alhamdoulilah, dans notre religion, la difficulté ramène la facilité. À chaque fois qu'il y a une difficulté, Allah il donne une facilité. Par exemple, quelqu'un qui ne peut pas jeûner à cause de sa maladie, Allah il lui autorise de ne pas jeûner et de rattraper ce jour plus tard. Mais quelqu'un qui a une maladie, yani, comme ils disent, incurable, marad muzmin, celui-là, il ne jeûne même pas. Il va passer à une expiation. Il va nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Si tu ne peux pas faire la salat debout à cause de ta maladie, tu la fais assis. Tu ne peux pas, tu la fais assis. Si tu ne peux pas assis, tu la fais allongée. Et ainsi de suite. Si tu ne peux pas allonger, tu la fais comme tu peux. D'accord ? Celui qui n'a pas d'argent, ce n'est pas obligatoire pour lui de faire le hajj. Celui qui n'a pas les moyens de se payer le billet d'avion et le pèlerinage, ce n'est pas une obligation. Il n'a pas délaissé une obligation. C'est obligatoire seulement quant à la capacité. Celui qui n'a pas d'argent, il ne sort pas la zakat. Regardez, là, on est en train de parler des piliers de l'islam. Les cinq piliers. Tawhid, la salat, le jeûne, la zakat, le pèlerinage. La zakat, d'abord, le jeûne, le pèlerinage. Après le jeûne et le pèlerinage, dans certains hadiths, c'est le pèlerinage d'abord et après le jeûne, et dans d'autres, c'est le jeûne et après le pèlerinage. Lakin, laissons tawhid jusqu'à la fin. Salat, on a dit, si tu ne peux pas debout, tu la fais assis. Le jeûne, plutôt la zakat, tu n'as pas les moyens, tu ne sors pas de zakat. Tu n'as pas d'économie, tu ne sors pas de zakat. Le jeûne, tu ne peux pas, tu rattrapes plus tard, ou tu passes à l'expiation. Le pèlerinage, tu n'as pas les moyens, tu ne fais pas de pèlerinage. Regardez, les piliers de l'islam, trois peuvent sauter complètement. Salat, elle ne saute jamais. Pour son importance, tu dois toujours faire la salat. Même quand tu ne peux pas la faire assis ni allongée, tu la fais comme tu peux. Tu peux arriver à un degré où tu fais la salat seulement avec les yeux. Tu dis Allahu Akbar, comme ça avec les yeux, comme si tu faisais takbir. Comme si tu faisais as-sujoud et ainsi de suite. Salat, tu la fais tout le temps. Car c'est le lien entre toi et Allah. C'est ce qui te maintient dans l'islam. Ne, n'abandonne jamais la salat. Tu l'abandonnes, c'est comme si tu as abandonné ta religion. Et aussi, tawhid, c'est une adoration que tu fais tout le temps. Personne n'est excusé de délaisser tawhid. Tawhid, c'est une adoration yani, que tu dois avoir à chaque instant de ta vie. Tawhid. Taïb. Donc, ensuite, Allah Azza wa Jalla dit dans la suite des invocations, Seigneur, nous ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Allah a dit, j'ai accepté. C'est pour ça, dans cette religion, jamais il te sera imposé une chose dont tu n'es pas capable. Comme les exemples que je viens de vous dire. À chaque fois que tu n'es pas capable, c'est plus obligatoire. Et à salam. C'est ça l'islam. À chaque fois que tu n'es pas capable, ce n'est plus obligatoire. Mais tu ne peux jamais dire que tu ne seras pas capable de faire tawhid. Ça n'existe pas. Et là, ça vous montre l'importance de ces adorations. Tawhid et la salat. C'est pour ça qu'ils sont indissociables. Celui qui délaisse un des deux, il a délaissé sa religion. Amma le jeûne, tu ne peux pas jeûner. Tu rattrapes ou tu nourris un pauvre pour celui qui ne peut jamais jeûner. Les personnes âgées, les personnes ayant des maladies incurables, comme le diabète, ces gens-là, ils ne peuvent jamais jeûner. Donc, ils passent directement à l'expiation. Il n'y a pas de jeûne pour lui. Les gens qui n'ont pas d'économie, ils ne donnent jamais de zakat. Au contraire, eux, ils peuvent prendre la zakat, s'ils sont dans le besoin. Et ceux qui n'ont pas les moyens, ce n'est pas obligatoire pour eux de faire le pèlerinage ni l'umra. Ya salam, regardez la facilité dans cette religion. Allah a tout exaucé. Ensuite, ils disent, Rabbana la ta'amil alayna wa la ta'amil wa'afu anna. Ensuite, ils disent, Seigneur, efface nos péchés. L'afu, c'est l'effacement des péchés. Et le pardon, c'est que ces péchés soient couverts. Seigneur, efface nos péchés. Pardonne-nous nos péchés et fais-nous miséricorde. Et fais-nous miséricorde. Allah a exaucé tout ça. Et ensuite, ils ont dit, t'es notre maître et protecteur, accorde-nous donc la victoire sur les mécréants. Et Allah a accordé la victoire aux croyants sur les mécréants. Tantôt avec la force, et tantôt avec les preuves et les arguments, et ça c'est tout le temps. Tout le temps, la victoire est accordée aux croyants avec la force de l'argument et des preuves. C'est eux qui ont la vérité. C'est eux qui détiennent la vérité. Et ça, c'est tout le temps. Lakin, Allah, il peut accorder une autre victoire aux croyants, qui est la victoire avec la force de l'arme. Et ça, c'est pas tout le temps. C'est selon la sagesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Regardez comment ces deux versets englobent les piliers de la foi, englobent les règles importantes dans la religion, comme la règle de la al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, la difficulté amène la facilité, et dans lesquelles il y a toutes ces invocations, le demande de pardon, le demande de l'effacement des péchés, et il y a aussi que l'oubli et l'erreur est pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Tout ça dans ces deux versets qui sont dans cette surah, surah al-azima, surah al-baqara. Voilà mes frères par rapport à ces deux versets. Il est quelle heure là ? Allah al-Musta'an. Donc je veux vous parler en 5 minutes. Malgré que je voulais vous parler d'une femme, une sahabia exceptionnelle. Et toutes les sahabiyates sont exceptionnelles, bien évidemment. Lakin, je voulais vous parler d'une sahabia qui s'appelle Nasiba bint Ka'b al-Ansariya, radiyallahu anha wa ardaha. Donc elle s'appelle, cette sahabia s'appelle Nasiba. Et on peut dire aussi Nusayba. Nasiba wa Nusayba. Cette sahabia qui est décédée en l'an 13 de l'Hégire, c'est-à-dire seulement 2 ans après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Cette sahabia, c'est une médinoise. C'est pour ça qu'on dit l'Ansariya. Elle est de Médine. Et elle fait partie des premières femmes qui ont cru au prophète alayhi salam parmi les médinoises. Car vous savez, quand le prophète alayhi salam était à Mecca, il a rencontré des médinois. Au début, il a rencontré un petit nombre de médinois auxquels il a fait da'wa, ils ont accepté l'islam. Ils sont partis et il a envoyé avec eux Mus'ab ibn Umair, radiyallahu anhu, le Mekwa, le savant du Coran. Il l'a envoyé avec les Médinois pour leur enseigner le Coran et les appeler à l'islam. Et beaucoup sont entrés en islam parmi eux. Et l'année suivante, ils sont venus pendant le pèlerinage, ils ont rencontré le prophète Al-Sassan pour la deuxième fois. Et cette année, ils sont venus, ils étaient plus nombreux. Il y avait 72 hommes, ou 73. 73 ou 72 hommes et 2 femmes. Il y avait 2 femmes avec eux seulement, qui avaient cru et qui sont venus faire le pacte d'allégeance au prophète A.S. Vous savez, c'est ça qui a préparé l'émigration du prophète A.S. vers Médine. Ce qu'on appelle Bay'at al-Aqaba al-Thaniya. Il y a eu le premier pacte d'allégeance et l'année suivante, il y a eu le deuxième. C'est ça qui a préparé l'émigration du prophète A.S. Donc il y avait 73 hommes et 2 femmes. Parmi ces 2 femmes, il y avait qui ? Il y avait cette femme de laquelle on parle aujourd'hui. Nasiba bint Ka'b al-Ansariya radiyallahu anha. Sa kunya c'est Umm Umara. Il y avait une deuxième femme qui s'appelle Umm Mani' Asma'u bint Amr radiyallahu anha. Il y avait 2 femmes seulement, parmi lesquelles il y avait Umm Imara. Sa kunya c'est Umm Imara. Nusayba radiyallahu anha. Et donc ils ont fait le pacte d'allégeance au prophète alayhi salam. Et Nasiba ainsi que Umm Mani', elles ont fait le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la parole et non pas en serrant la main comme il a serré les mains aux hommes, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais serré la main d'une femme. Comme vous savez, c'est pas permis ni que l'homme serre la main d'une femme étrangère. Tayyib. Donc Nasiba radiyallahu anha, elle est parmi les premiers qui sont entrés en islam parmi les Médinois. Et en plus, dans ce groupe, il y avait son mari, Zayd ibn Asim. Il y avait ses 2 fils qu'elle a eus avec Zayd ibn Asim. Habib et Abdullah. Donc, ils étaient quatre de la même famille, dont ces 75 personnes qui ont fait le pacte d'allégeance au prophète, sallam, comme quoi ils sont prêts à l'accueillir à Médine et qui vont le défendre avec tout ce qu'ils ont. Et suite à cela, Al-Nabi sallam, a fait son émigration vers Médine. Donc, comme j'ai dit, son mari s'appelle Zayd ibn Asim. Et son mari, Zayd ibn Asim, après le décès de son mari, Nasiba, radiyallahu anha, a épousé un autre compagnon qui s'appelle Raziya ibn Amr, al-Najjari. Et elle a eu également avec lui des enfants, en plus de ses deux fils qu'elle a eu avec Zayd, Habib et Abdullah. Son fils Habib, c'est un grand croyant, un grand compagnon. Tous, c'est des compagnons. Son fils Habib, il a rencontré Musaylim al-Kadhab, cet imposteur qui a prétendu être un prophète. Et Musaylim lui a demandé de croire en lui. Il a refusé. Il lui a dit, j'entends rien de ce que tu me dis. Il a refusé de croire en lui. Et cet ennemi d'Allah, cet imposteur l'a tué. Il l'a coupé en morceaux jusqu'à l'avoir tué. C'est un martyr, radiyallahu anhu arda. Suite à cela, les compagnons ont combattu à l'époque de Abu Bakr les Banu Hanifa, la tribu de Musaylim al-Kadhab qui l'ont suivi et ont emporté la bataille et Musaylim a été tué. Mais imaginez, il a été tué par qui ? Par deux hommes qui ont participé dans la mort de ce grand ennemi d'Allah. Le premier, il s'appelle Wahshi. Wahshi, c'est le même homme qui a tué Hamza, l'oncle du prophète, lors de la bataille de Uhud. Et Wahshi, quand il a tué Hamza, il n'avait pas d'intérêt personnel, mais il était esclave auprès d'une femme qui lui a demandé de tuer Hamza pour le libérer. Et c'est ce qu'il a fait, il a été libéré. Mais après, il est entré en islam et le prophète A.S. lui a pardonné. Regardez, il a tué l'oncle du prophète A.S. et Annie qu'il aimait énormément. Le prophète A.S. a été très, très, très attristé après la mort de son oncle Hamza. Malgré cela, il lui a pardonné, étant donné qu'il a cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Wahshi, c'est lui qui a lancé Musaylim al-Kadhab avec une lance. Il l'a touché. Et c'est un autre fils de Nasiba, radiyallahu anha, qui l'a achevé avec son épée. Donc ils ont participé tous les deux à tuer ce grand ennemi d'Allah. Il s'est vengé pour son frère qui a été tué avant, son frère qui s'appelle Habib ibn Zayd. Donc, Nasiba, radiyallahu anha, a un frère qui s'appelle Abdullah ibn Ka'b, qui est aussi un compagnon, qui a participé dans la bataille de Badr. Elle a un autre frère qui s'appelle Abdurrahman, qui est aussi un grand compagnon. Radiyallahu anhum tous. Regardez cette famille. Cette famille de croyants. Et le fils de Nusayba, Abdullah, qui a tué Musaylim al-Kadhab, il a été tué par le Khawarij. Regardez les Tekfiriyim, contre lesquels je vous mets en garde. Ceux qui font des attentats. Que ce soit dans des pays de l'islam ou dans des pays de mécréance. Ce n'est pas autorisé de faire ces attentats dans lesquels ils tuent des innocents. Et d'ailleurs, ce n'est pas autorisé d'une manière générale, qu'ils tuent ou pas. Ça ne fait pas partie de l'islam. Ça, c'est des criminels qui font du mal aux musulmans avec leurs actes criminels. Donc, regardez le Khawarij. Ils ont tué celui qui a tué Musaylima, radiyallahu anhu. Celui qui a tué Musaylima, qu'Allah le maudisse. C'est-à-dire Abdullah ibn Zayd, radiyallahu anhu, le fils de Nasiba, radiyallahu anhu. Et donc, comme je vous ai dit, tous ils sont entrés en islam avec la da'wa de Mus'ab ibn Umayr, qui est parti à Médine et qui a enseigné l'islam aux gens et qui a appelé l'islam aux gens. Taïb. Parmi les choses remarquables chez cette femme et les choses remarquables dans sa biographie sont très très nombreuses. Déjà, remarquez que nous sommes en train de parler d'une des premières femmes parmi les Médinoises qui sont entrées en islam, une de deux femmes qui ont fait le pacte d'allégeance au prophète de le recevoir et de le défendre à Médine. Et elle a participé dans beaucoup de batailles aux côtés du prophète, au point où dans la bataille de Uhud, elle fait partie, avec les membres de sa famille, de ceux qui sont restés auprès du prophète. Elle a pris plus d'une douzaine de coups d'épée. Et elle avait même un trou dans le dos, yani un coup d'épée qu'elle a pris par un grand ennemi d'Allah, qui est mort mécréant, qui s'appelle Ibn Qami'a, qui a essayé de tuer le prophète, mais elle a défendu le prophète, et elle s'est pris une douzaine de coups. Et elle a participé avec le Nabi dans d'autres batailles. Et elle a participé d'ailleurs aussi dans la bataille contre les Banu Hanifa, les suiveurs de Musaylim al-Kadhab, l'imposteur, qui a prétendu être un prophète. Elle a participé dans cette bataille et sa main a été coupée. Radiallahu anha wa ardaha. Et elle dit qu'elle a demandé au prophète, ou là avant de vous citer ça, Nasiba radiallahu anha, un jour elle a reçu une petite brebis et elle l'a préparée, elle l'a cuisinée et elle a envoyé une partie au prophète alayhi salatu salam. Et le prophète alayhi salatu salam, quand il est rentré chez lui, il a dit à notre mère Aïcha, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Elle a dit non, il n'y a rien à manger excepté ce que Nusayba a envoyé, cette partie de cette brebis. Il lui a dit, alors, mets-nous à manger, car c'est venu au bon moment. C'est venu au bon moment. Radiallahu anha wa ardaha. Donc également, Nusayba, radiallahu anha, parmi yani, les choses remarquables, c'est que elle a, yani, après avoir défendu le prophète, elle lui a demandé de leur faire dua. Et le Nabi leur a fait dua. Il a dit beaucoup de bien d'elle. Il a dit beaucoup de bien d'elle. Et elle était très satisfaite de cela. Et elle le rappelait souvent. Anna, le Nabi lui a fait dua. Et donc c'est une femme qui a tout sacrifié pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour son messager. Depuis son entrée en islam, elle fait partie des premières médinoises qui sont entrées en islam, jusqu'à sa mort, quelques années seulement après la mort du prophète, alayhi salatu salam. C'était une femme très endurante, très patiente. C'était une femme d'un courage exceptionnel. Je vous dis qu'elle a participé avec le Nabi alayhi salam dans plusieurs de ses batailles. Et même, elle est arrivée, c'est pas seulement en soignant les malades et les blessés. Elle est arrivée à participer même dans le combat comme dans la bataille de Uhud. Elle a pris une épée et elle a participé, et un lance-flèche, et elle a participé dans le combat afin de défendre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah l'agrée et qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait d'elle, ainsi que de tous les membres de sa famille, ainsi que de tous les compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum. Et Nusayba aussi, elle était connue pour être une femme qui s'exprimait et au nom des autres femmes. Yani comme, on peut le dire aujourd'hui, comme une porte-parole des autres sahabiyats. Elle venait, elle demandait au prophète, alayhi salam. Yani, y a un hadith qui est rapporté, il est faible. Lakin, le sens est vrai. Je vais vous le dire en résumé. Yani, un jour, elle est venue, elle a dit au prophète, alayhi salam, alors qu'il était avec ses compagnons, elle lui a dit au messager d'Allah, regarde tous les mérites qu'Allah a accordés aux hommes. Ils participent dans les combats, ils font la salat en groupe, ils ont ça, ils ont ça, ils ont ça. Qu'est-ce que les femmes ont? Et le Nabi lui a enseigné une chose qui est très bénéfique pour chaque femme, qu'elle le sache. Et ces choses-là sont rapportées dans d'autres hadiths. Mais dans ce hadith, comme je vous ai dit, dans d'autres hadiths qui sont authentiques. Mais ce hadith, comme je vous ai dit, il est faible. Lakin, la leçon, c'est que le Nabi lui a montré ce qui égale tout ce qu'elle a cité comme qualité chez les hommes et comme mérite chez les hommes, il lui a cité un point qui égalise tout ça. Et même ça peut le dépasser. C'est qu'elle soit une bonne épouse et une bonne femme, une femme yani, dans son foyer, qu'elle s'occupe de ses enfants, de leur éducation, de leur enseignement, et qu'elle soit une bonne épouse pour son mari, ça, ça égalise tout ce qui a été cité précédemment pour les hommes. Allahu Akbar. Donc, il ne faut pas que la femme croie qu'elle est, yani, qu'elle a pas les mérites que l'homme a. Lakin, chacun dans son rôle, chacun dans ses responsabilités. Et هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
جزاكم الله خيرا والسلام عليكم
بارك الله فيكم جزاك الله خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم أستاذ
وعليكم السلام وعليكم السلام